Les journalistes policiers, marchands de calomnies, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas, ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune.
Du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune.
Et ça prouve à tous les Judas si ça marche de la sorte.
Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Voilà. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et nous nous retrouvons en direct. C'est parti pour 1h30 de partage de livres, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Dominique, Francis et aujourd'hui un invité, Frédéric Goldbrand, pour son projet de documentaire intitulé « Hommage à la Catalogne », un titre qui nous est familier dans l'émission au fil des pages. Frédéric, est-ce qu'il y a des annonces ? Pas d'annonces, très bien. Alors, en plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, mais... N'hésitez pas aussi à écrire sur le blog du groupe Communes de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole, dessinée, comme je le dis à chaque fois, par notre ami Tardy. Allons-y sur cette émission. Eh bien, pour alimenter le débat, je vais vous présenter un livre qui concerne les Gilets jaunes. Alors, vous vous rappelez certainement, le mouvement des Gilets jaunes a commencé le 17 novembre 2018, initialement pour protester contre l'instauration d'une taxe sur le carburant diesel, un événement historique en raison de sa diversité, de sa complexité et de son caractère inattendu. On ne peut pas dire qu'au mois de septembre, on s'y attendait. Les ronds-points, les barrières de péage, les rues de grandes villes, occupées par ces femmes et ces hommes, ont dérouté la classe politique et autres politologues. Et donc pour Antoine Bernard de Raymond et Sylvain Bordiec, sociologues, auteurs de ce livre « Sociologie des Gilets jaunes, reproduction et lutte sociale » publié aux éditions Le Bord de l'eau en 2024, eh bien, ce mouvement ne se laisse pas facilement appréhender par les catégories usuelles de la politique, par les catégories de la politique instituée, aussi ceux qui ont tenté précipitamment de le rabattre dans des catégories toutes faites, gauche, droite, populisme, en ont finalement été... pour leurs frais. Bon, une forme d'énigme donc pour les rationalistes de la vie politique. Elles, ils sont d'origine populaire, la plupart du temps faiblement diplômés, avec peu d'expérience politique et sans organisation formelle ni leader. Ces personnes pourtant créent une mobilisation collective. Attention. Le livre dont je vous fais la recension, là, dont je vous fais le commentaire, concerne une analyse dans une région de France, autour de Bordeaux. Vous n'avez pas la ville exacte pour faciliter les échanges avec le public et pas avoir des risques de remise en cause par ces personnes. Bon, donc, ce qui est intéressant, c'est que ces gilets jaunes s'attaquent à l'organisation étatique plutôt qu'au patronat. Ils s'intéressent au phénomène de la reproduction sociale et des inégalités intergénérationnelles. Elles, ils se mobilisent sur les ronds-points. On les connaît tous, ces ronds-points. Les auteurs développent la symbolique de ces lieux. En fait, le rond-point, c'est un dispositif de rencontre, de mobilisation pour oser. osaient. Et oui, ces gens-là n'osaient pas. De plus, l'hétérogénéité de l'ensemble tient grâce à la constitution de petits groupes qui se fédèrent, se transforment, construisent leurs réflexions autour de leur statut social. Souvent, c'est la vie quotidienne qui impulse l'engagement. Un fait qui crée un déclic, la question de la voiture en l'espèce, du carburant qui conditionne la vie sociale de la famille. La parole dans l'ouvrage est souvent donnée aux femmes, qui soulignent aussi la hausse du budget des ménages, celle des dépenses contraintes. Le cri de protestation contre l'injustice fiscale, je cite, « il faut limiter le max de rentrée d'argent pour l'État », eh bien, c'est intéressant parce que c'est un parallèle qui pourrait s'établir entre le carburant, considéré comme un bien essentiel, tout comme le pain sous l'Ancien Régime. Toute proportion est gardée, bien évidemment. Tous les produits de base sont touchés. Que reste-t-il comme reste à vivre ? Question. Les jeunes ne peuvent pas s'en sortir. La solidarité intergénérationnelle joue. Comment répondre au désir d'ascension sociale ? En fait, ce livre pose toute une série de questions et vraiment, je vous invite à le lire pour découvrir comment ces deux sociologues ont travaillé. Et face à cette crise sociale, le mépris du pouvoir n'a de cesse, encore aujourd'hui. Les élites sont totalement déconnectées de la société, on le voit tous les jours en ce moment, et au fil des pages, les témoignages recueillis par les auteurs étayent la réflexion. Comment vivre en cas d'accident de la vie, ceux du travail ? Comment construire une solidarité locale ? Entre les gens du coin et les déracinés, il existe peu de relations sociales. Finalement, le rond-point, par sa fonction de passage, crée des liens, une assemblée fraternelle de gens qui ne se connaissaient pas. On discute, on délibère, on décide des actions à mener, des stratégies d'évitement des clivages politiques, la lutte contre le leadership, vous savez, les grandes gueules qu'on a dans toutes les réunions, que ce soit les réunions de famille ou les réunions politiques ou autres, ces stratégies d'évitement et cette lutte dessinent des perspectives lors du démontage des ronds-points. Par exemple, l'appel de Commercy a suscité des débats intenses, tout comme la charte des Gilets jaunes. Rappelons-nous les exigences de mécanismes de contrôle populaire des dirigeants. Ils traduisent en fait une crise de gouvernementalité, disent les auteurs du livre. Et les débats permanents, les échanges sur des thématiques éclatées, déroutent les médias qui, cherchant toujours la simplification, ont contribué au mépris institutionnel. Chacun se rappelle de ces images et de ces sons qui vraiment incitait à ce mépris que je viens d'évoquer. Et au-delà de l'éloignement des réalités vécues, les discours officiels sonnent aux oreilles des Gilets jaunes, et je dirais comme aux oreilles de pas mal de Français, comme une langue étrangère incompréhensible. Oui, ils s'en prennent à l'État, ces Gilets jaunes, et plus précisément aux régaliens, et leurs réflexions affrontent le dilemme entre justice sociale et écologisation des pratiques. Quelques années après, et oui, nous sommes en 2024, les modes d'action exprimant les protestations sociétales ont changé, mais pas les questions sociales et les injustices. Rappelons-nous le cri des Gilets jaunes, on n'est pas là pour nous, on est là pour nos enfants. Je vous donne les références du livre. Antoine Bernard de Raymond, Sylvien Bordiec, Sociologie des Gilets jaunes, reproduction et lutte sociale, aux éditions Le Bord de l'eau, en 2024. Et écoutons un extrait d'une chanson qui fut l'hymne de ces Gilets jaunes, Frédéric.
On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là.
Dédique à cette chanson, histoire de mettre les choses au clair. Manu, t'as pas vraiment raison, c'est plus de 60% de Français qui sont aujourd'hui mécontents avec ce que tu nous racontes. Elle est où notre belle France?
On est là.
Pas bien leurs oreilles, je parle bien sûr de tous ces gens qui bossent pour le ministère. Il va falloir que ça change, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Elle est où notre belle France?
On est là. On est là.
Toujours dans cette première partie, dans laquelle nous présentons des livres pour ouvrir le débat. Hein. Je dis bien que ce que je viens d'énoncer et les commentaires de ces sociologues sur ce mouvement social, bien, n'engagent que même, mais c'est pour vous inciter à lire le livre, tout simplement. Et nous aimons aussi parler de peinture, d'exposition, de catalogue. Et c'est Agnès qui est notre spécialiste et nous présente un petit livre consacré à Berthe Morisot, en nous invitant à visiter, vous savez qu'elle adore ça, c'est présenter un livre et puis inciter à aller visiter soit une exposition, soit un lieu, à visiter le musée Marmottan. Alors Agnès, Berthe Morisot.
Alors oui, en effet, je voulais vous parler du livre La féerie quotidienne selon Berthe Morisot, écrit donc par Sylvie Patin, aux éditions Atelier Henri Dougier, le roman d'un chef-d'œuvre.
Alors, la couverture, c'est un berceau, si je me souviens bien.
La couverture est un joli berceau. Et quand on ouvre les deux rabats, sur un côté du rabat, il y a un détail de ce tableau du berceau que je vais vous raconter. Et de l'autre côté, il y a un magnifique portrait de Berthe Morisot fait par sa sœur Edma, quand elle était jeune, et effectivement qu'ils étaient souvent ensemble en train de peindre. En effet, le berceau, qui ne connaît pas ce célèbre tableau d'un landau couvert de dentelles légères, où se repose une petite enfant, le bras recourbé, endormie et sereine, contemplée par sa mère, toute de noir vêtue, un ruban rouge autour du cou, une vaste chevelure sombre dans un fond bleuté, le visage attendri par le repos de son enfant, berceau drainé de taches et de rubans roses, dans une atmosphère d'un jaune pâle d'une grande douceur. Un tableau impressionniste, voilà, c'est dit. Narratrice, Sylvie Patin, conservatrice générale honoraire au musée d'Orsay, partage sa plume avec Edma, la sœur de Berthe, et puis ensuite avec sa fille Julie, écrit ainsi une émotion particulière au roman. Détails, faits et mots importants retrouvés dans des correspondances conservées. Berthe Morisot est née en 1841 et décédée en 1895, a grandi dans une grande famille bourgeoise avec une fratrie composée de trois sœurs et un frère. Ses sœurs étaient Edma et Yves. À l'époque, c'était un nom autant féminin que masculin, et son plus jeune frère, Tiburce. Les filles de la maison prennent des cours de musique, mais surtout de peinture, avec comme professeur Joseph Guichard, Achille Houdinot, puis Charles-François d'Aubigny, qui les enverront au Louvre apprendre la peinture classique. C'est ainsi que Berthe Morisot rencontrera Fantin Latour, qui la présentera à Édouard Manet. Celui-ci se permettra de corriger ses toiles, ce qui l'agaçait d'ailleurs fortement. Mais elle rencontrera aussi Degas, invité tous les mardis par sa propre mère. À la suite du mariage d'Edma, les deux sœurs n'en finiront pas de correspondre et de se retrouver. C'est à l'une de ces occasions que Berthe Morisot peindra le berceau de sa petite nièce Blanche, protégée et admirée par sa sœur. Et puis, par l'intermédiaire de Degas, le 15 avril 1874, dans les locaux du photographe Nadar, avec 30 artistes, dont Boudin, Cézanne, Picasso, Renoir...
Non, Pissarro.
Pardon, Pissarro, décidément. Renoir, Monet, Degas et les autres, Berthe Morisot, la rebelle courageuse, exposera le berceau. Dans cette exposition hors courant, nommée impressionniste, en raison de la toile de Monet, impression Soleil levant. Ce sera la seule exposition de cette œuvre de son vivant et elle accueillera autant critiques qu'éloges. Mallarmé, en particulier, ne tarira pas d'éloges au sujet de ce tableau et c'est lui qui qualifia ce tableau de féerie quotidienne touché par ce chef-d'œuvre qu'il estimait exceptionnel. Berthe Morisot se mariera avec Eugène Manet, frère du grand peintre, et aura une fille, Julie, qu'elle ne se lassera jamais de peindre. Elle participera à toutes les expositions organisées par les impressionnistes de 1874 à 1886. Hormis celle de 1879, malgré toutes les critiques acerbes. Elle gardera toute sa vie durant une profonde amitié et complicité avec Degas, Renoir, Monet, Mallarmé. Ils se rencontreront régulièrement et lui seront fidèles après son décès pour s'occuper de sa fille Julie. En effet, elle partira d'une grippe ou d'une affection pulmonaire, laissant sa fille orpheline, bien jeune, en 1895. Paul Durand-Ruel organisera une grande rétrospective en son honneur à son décès, assistée par tous les impressionnistes qu'elle appréciait. Le tableau Le Berceau fut racheté en 1930 par les musées nationaux et attribué au Louvre, puis plus tard au musée d'Orsay. Cet achat fut accompagné du don effectué par la fille de Berthe Morisot, la femme à l'éventail de Manet, unissant Berthe Morisot et les Manet à tout jamais. C'est avec un enthousiasme non dissimulé que je vous évoque ce roman, ressenti comme un reportage vivant, qui ne donne qu'une envie, c'est d'aller au musée d'Orsay, au musée Marmottan, pour goûter les œuvres qu'elle a peintes, pour voir les tableaux où elle et sa fille ont été modèles. Une fresque de l'époque de ses affections d'artiste précieuse. Je vous invite aussi à visiter la maison de Berthe Morisot dès sa réouverture prochaine à Bougival, 1 avenue de l'Adrionne dans les Yvelines. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage, La féerie quotidienne selon Berthe Morisot, écrit par Sylvie Patin, aux éditions Henri Dougier, le roman d'un chef-d'œuvre.
Merci Agnès. Sylvie Patin, qui a été commissaire de l'exposition sur l'impressionnisme.
Sur l'impressionnisme là, aussi. Hein,
dont nous avons fait état il y a quelques. Au mois de mai.
C'est ça.
Au mois de mai.
Et qui va aussi s'occuper de l'exposition prochaine de Caillebotte.
Caillebotte. Bon, on le retrouvera à cette occasion. Nous allons passer un moment avec Debussy, La fille aux cheveux de lin. Pour harpe, interprétée par Héloïse de Genlis.
Thank you.
commençons cette première demi-heure avec un livre curieux, La dernière des cathares.
Bah, étonnant, n'est-ce pas? Rien que le titre.
Quelle scène! Et d'habitude, je me contente du singulier pour présenter un ouvrage qualifié de thriller. Je n'aime pas d'ailleurs ces termes anglo-saxons, mais en l'espèce, le mot traduit bien l'ambiance de ce livre. La dernière des cathares de Jean-François Roux, publié aux éditions L'Harmattan en 2024. Mais là, les scènes ne manquent pas, donc j'utilise le pluriel. Bien sûr, il faut se placer dans l'ambiance, éviter le RER à 17h47, debout, serré, bousculé pour lire un tel ouvrage. Non, attendez d'être dans un endroit serein. Un peu de pénombre d'ailleurs, c'est sympa. Et nous entrons dans un monde parallèle, fantastique. Nous retrouvons des formulations latines, ce qui est rare de nos jours dans un roman. Des extraits de l'évangile de Jean. D'aucuns prétendent qu'elle serait la plus symbolique des quatre reconnues, en tout cas par l'Église. On met de côté les apocryphes. Déjà, il faut aimer ce cadre ou vouloir le découvrir. Mais c'est aussi l'intérêt de l'ouvrage, mêler différents styles, différents univers pour créer par une alchimie cet égrégore en construction au fur et à mesure du texte. Et puis vous retrouvez des scènes de la vie quotidienne, l'utilisation des nouvelles technologies, la commissaire chargée de l'enquête, je vous révèle pas tout, sinon c'est pas drôle, lisez le livre, elle connaît des disputes avec son adolescente de fille, de sensibilité gothique, ça c'est quasiment de la vicote, des interrogatoires, tout en nuances, menés par les flics, ça aussi, malheureusement, c'est de la vicote, et ça va pas finir avec ce qui nous attend. L'auteur, disposant d'une bonne connaissance du monde judiciaire, nous conduit dans les étapes des procédures, les contrôles, les pressions du pouvoir, le « courage » entre guillemets du procureur songeant intensément à son déroulement de carrière lors de la prise de décision tout aussi courageuse. Je vous laisse, ça vous verrez, c'est étonnant de réalité. Et pourtant, c'était simple. Une personne handicapée mentale qui, un peu bousculé lors d'un interrogatoire, accepte de tout avouer. C'était parfait pour le déroulement de carrière. Oui, mais il y a un problème, elle n'est pas coupable. Ah, quelle engeance! Et les pages se tournent avec envie. Un autre aspect du livre, les références littéraires. C'est logique, au fil des pages, on aime bien cet aspect de références littéraires. Eh bien, les références littéraires émaillent l'ouvrage, créent une complicité entre l'auteur, les personnages et le lecteur. Retrouvons des extraits des Fleurs du Mal, de Baudelaire, évidemment, des textes de René Guénon, Corbin. Nous passons de la vie quotidienne à un monde aussi d'entre-deux. Je vous en lis un extrait. L'espace d'une seconde, Alice pensa que ces derniers mots faisaient allusion à sa silhouette. En grandissant trop vite, elle avait beaucoup minci et l'autre la détrompa. Tu ne te contentes pas de l'apparence des choses, tu désires connaître ce qui se trouve au-delà. Ton esprit forme un terme bizarre pour en parler, les arrière-mondes. Quelle drôle d'idée. C'est là où tu vis, qui est derrière le monde, celui de la vérité, et non l'inverse. Je viens vers toi car je cherche quelqu'un digne de recevoir le secret, le pouvoir que je conservais jusque-là, quelqu'un dont je puisse faire mon héritière. En outre, j'ai besoin de ton aide. Qui lui adresse la parole? Vous verrez. Et le tout est bien mené. Le ton alerte, un soupçon de sorcellerie, et puis une date pour ceux qui s'intéressent à cette période, le 16 mars 1244, le massacre des cathares à Montségur. Je vous laisse découvrir le lien avec le roman. Voilà qui fait songer à Bélibaste. Là aussi, le dernier, lui, des cathares. Un roman du regretté Henri Gougaud, qui était un de nos amis et qui a toujours soutenu notre sensibilité. Voilà un livre qui nous invite à en découvrir et en relire d'autres. Un intéressant maillon d'une belle chaîne, celle de l'écriture. Jean-François Roux, La dernière des cathares, aux éditions L'Harmattan, en 2024.
J'ajoute que Jean-François Roux dédicacera son livre à la librairie Impression à Enghien-les-Bains, 10 rue Jean Monnet, samedi, 28 septembre, de 15h à 18h dans le Val d'Oise, en compagnie de Sandrine Malika Charlemagne, autrice de La Traqueuse, roman que nous avons déjà présenté au cours de cette émission. Vous verrez, c'est un roman qui vous incite à aller découvrir d'autres livres. Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Et comme tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la librairie de la FA, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez aussi retrouver certains commentaires sur notre page Facebook, Au fil des pages, et sur la chronique Des idées et des luttes sur le site du Monde libertaire. Est-ce que, Frédéric, nous pouvons passer la chanson anarchiste tout de suite ? Merci.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Eh bien voilà, avec cette chanson, eh bien nous entamons le deuxième temps de l'émission, rencontre avec Frédéric Goldbronn. Nous sommes en Espagne, dans les années 30. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de votre invitation.
Peux-tu nous présenter ton parcours pour aboutir à ce documentaire dont nous allons parler pendant une demi-heure, Hommage à la Catalogne, le titre du célèbre livre de George Orwell?
Ah, c'est une histoire qui remonte à loin. En fait, j'ai découvert les archives, enfin les actualités cinématographiques des anarchistes en juillet 1977. Aux Journées Libertaires à Barcelone.
Des
grandes journées, des rencontres internationales. C'était la renaissance, enfin la renaissance espérée en tout cas du mouvement anarchiste après 40 ans de dictature franquiste. Et donc à cette occasion, les images de, faites par les opérateurs anarchistes, les opérateurs de la SNT, ont été montrées pour la première fois en format pellicule. À l'époque, il n'y avait pas encore de vidéo. Et dans un cinéma qui s'appelait le Diana, dans le Barrio Chino, à Barcelone. Voilà, au milieu d'une effervescence incroyable. Et bon, ces images, évidemment, moi, comme tous les spectateurs qui étaient là, les jeunes spectateurs en particulier, on était bouleversés par cette présence du passé, de ce mythe de la Révolution espagnole, qui était pour nous très important. Et évidemment, j'étais venu avec quelques amis à Barcelone, et notre livre, non pas de chevet, puisqu'on voyageait beaucoup, était précisément Hommage à la Catalogne. Donc il y a une sorte de rencontre entre ce texte qu'on lisait attentivement et puis ces images qui a été un choc. Voilà, pour moi, un choc. À l'époque, je ne pensais pas du tout que je ferais des films documentaires. Je n'avais aucune idée du métier que j'allais exercer.
Ça, c'est un métier, voilà. C'est ton métier.
C'est mon métier principal, oui.
D'accord.
Oui,
mm-hmm. Oui.
Et donc voilà, c'est une histoire c'est une rencontre qui a fait qui a fait son chemin. Je me suis orienté vers la, j'ai une formation, j'ai fait des études d'histoire sociale et à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis j'ai fait une formation de documentaliste avec une spécialisation audiovisuelle. Ensuite, au début des années 90, j'ai voulu m'orienter vers la réalisation de films documentaires, et j'ai fait les ateliers Varan, qui sont des ateliers créés par le cinéaste Jean Rouche,
oui.
Et qui sont juste à côté d'ailleurs, qui sont au métro Philippe Auguste également. Et voilà, et donc j'ai fait une petite dizaine de films, et on arrive à celui-là.
C'est bien que tu utilises le terme de révolution, car on parle toujours de la guerre d'Espagne, mais on souligne moins qu'il y a eu une révolution. On parle de la guerre et de ses horreurs, mais la révolution, il s'est passé quelque chose, et Orwell est dedans et il le voit.
Oui, la révolution, c'est précisément la part la plus scandaleuse, disons, de la guerre d'Espagne, et celle qui a été, c'est ce qu'on appelait le grand camouflage à l'époque, hein, Burnett Bolotin qui appelait ça le grand camouflage. On a évidemment peu parlé de cet aspect de la guerre d'Espagne, et c'est seulement aujourd'hui que, enfin, on en parle de plus en plus, bien sûr, et pour toutes sortes de raisons. Des raisons qu'on peut assez facilement comprendre aujourd'hui, notamment l'hostilité que cette révolution a rencontrée de la part des appareils communistes, du Parti communiste, qui était à l'époque sous la domination du Comintern et de Staline.
Stalinienne, oui.
Voilà.
Les images, alors tu as dit que tu avais utilisé les images de la CNT et tu as travaillé avec l'association, une association qu'on aime bien et qu'on connaît bien ici, l'association du 24 août 1944, et avec le RÉDIC.
Tout à fait.
Alors l'association, comment as-tu travaillé avec elle, et puis RÉDIC aussi?
En fait, c'est un Richard Prost, qui fait partie de cette association et qui est un des fondateurs du RÉDIC, m'a proposé qu'on puisse accéder à ces images d'archives en coproduction, et ce qui permet de faire le film aujourd'hui. Voilà.
Et le RÉDIC?
Et le RÉDIC, c'est le réseau de recherche en histoire. Je ne me souviens plus de la déclinaison
exacte
du sigle. C'est le réseau de recherche en histoire sociale, oui.
D'accord. Alors, comme nous sommes dans une émission consacrée au livre, je voudrais que tu nous parles du temps de l'écriture d'Orwell. Je crois que il l'a pas écrit comme un reportage en prenant des notes au jour le jour. Et tu utilises aussi le terme le retour à la racine avec cette formule ça a été. Qu'est-ce que ça veut dire le retour à la racine et ça a été?
En fait, Orwell raconte donc dans Hommage à la Catalogne, raconte son expérience en Espagne, hein, qui est une expérience un peu en trois temps, disons, le livre a trois parties, on pourrait dire. Une première partie qui est consacrée, il arrive à Barcelone fin décembre 1936 et il est totalement stupéfait, dans le bon sens du terme, parce qu'il voit, quoi. Pour lui, c'est la première fois qu'il voit un pays où la classe ouvrière a pris le pouvoir. Enfin, c'est comme ça qu'il le présente. Et il est parfois un peu choqué, parfois un peu... Enfin, en tout cas, toujours très surpris. Il a envie d'en être. Il a envie d'en être.
Il est lucide aussi.
Il a envie de se battre pour... Ouais. Pour défendre
cette révolution.
Cette révolution, voilà. Et donc, il part combattre sur il ne veut pas rester spectateur, il part combattre sur le front d'Aragon, et il combat avec la milice du Poum, bon, pour des raisons un peu circonstancielles, il arrive dans la milice du Poum, enfin, il dit aussi qu'il aurait pu très bien arriver dans les milices anarchistes, et donc, il fait une expérience très forte, au front, qui est beaucoup plus évidemment dur que son enthousiasme de départ, et qui est l'expérience du dénuement, de l'absence d'armes, des miliciens, mais aussi de la fraternité extrême qui règne entre les miliciens et les miliciennes. Il y en avait quelques-unes aussi,
oui.
Et encore à cette époque-là, et c'est une expérience pour lui très forte. Il dit que ces milices, c'était pour lui le microcosme d'une société sans classe. Et puis, donc, il reste comme ça pendant jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, il arrive début janvier sur le front d'Aragon. Il reste jusqu'à la fin du mois d'avril 37. Et fin avril 37, il passe toutes ces semaines avec des dizaines de milliers de personnes, hein, qui occupent ces hauteurs du front d'Aragon et qui se battent peu ou prou pour une révolution prolétarienne. Et il a une permission fin avril, il arrive à Barcelone, et à Barcelone, les choses ont complètement changé. Les anarchistes qui occupaient encore beaucoup de postes stratégiques, d'entreprises à cette époque-là, sont de plus en plus confrontés à la pression des communistes, qui étaient un tout petit parti au début de, avant la révolution, avant juillet 36, et qui ont pris beaucoup, beaucoup d'importance, et une importance stratégique, avec évidemment les livraisons d'armes de l'URSS. En échange de ces livraisons d'armes, les staliniens se sont emparés de beaucoup de postes. Et donc, les staliniens, alliés à la bourgeoisie républicaine, donc à la bourgeoisie antifasciste, mais anti-révolutionnaire également, évidemment, cette alliance des staliniens et de la bourgeoisie républicaine vise à désarmer les anarchistes, et il y a une provocation, les anarchistes occupent ce qu'on appelle la téléphonique, le central téléphonique, et d'où partent toutes les communications, où passent toutes les communications, y compris les communications avec l'étranger, et les staliniens, enfin les gardes d'assaut contrôlés par les staliniens expulsent les anarchistes du central téléphonique, et ça provoque une semaine d'affrontements armés à Barcelone, la grève générale et quasiment une guerre civile dans la guerre civile.
Et on voit, même quand on va à Barcelone aujourd'hui, qui a bien changé par rapport à ce qu'était Barcelone de 36, on voit encore certaines places et on se dit, ah bah oui, c'est là où ils se sont battus, mais c'était pas du corps à corps, mais à deux doigts quand même.
Enfin, la ville s'est hérissée de barricades, oui. Et il y a eu plusieurs centaines de morts, évidemment. Et donc, il il défend le local du Poum, puisqu'il fait partie de la milice du Poum, et il est du côté des ouvriers en grève et sur les barricades contre donc les gardes d'assaut, et il passe une semaine comme ça. Finalement, cette semaine des affrontements de mai 37 se termine un petit peu sans vainqueur ni vaincu. Bon, voilà, la direction, personne ne veut une guerre civile dans la guerre civile qui ne pourrait que favoriser évidemment les fascistes. Et donc, finalement, le travail reprend au bout d'une semaine, les barricades sont démontées, Orwell retourne sur le front, puisque sa permission est terminée, et là, il prend une balle à travers la gorge, et oui. Bon, il passe très très près de la mort, évidemment, et donc il part à l'hôpital, enfin dans un long circuit d'hôpital, de sanatorium, et il revient à Barcelone, donc au mois de juin, et à ce moment-là, les choses ont encore changé, et c'est la chasse au Poum, donc qui était considéré comme un parti trotskiste, enfin ou en tout cas nommé comme tel par les staliniens, et donc le Poum est déclaré illégal, tous ces locaux, ces journaux sont saisis, les dirigeants du Poum sont mis en prison, voire assassinés. Andresnin, par exemple, le dirigeant du Poum, le représentant du Poum a été assassiné, et il n'a pas été le seul, il y a eu aussi des anarchistes qui ont été assassinés aussi à ce moment-là, et Orwell lui-même est recherché, la police politique vient de faire une descente dans sa chambre d'hôtel, a confisqué tous ses carnets, et il n'a d'autre solution que de fuir.
Il
se cache même dans une église en ruine. Et donc, c'est vraiment l'inversion complète de ce qui s'est passé 6 mois avant. Il retourne, il prend le train avec sa femme. Sa femme travaillait pour le Poum à Barcelone. Et ils prennent le train à la gare de Barcelone en se faisant passer pour des bourgeois étrangers en vacances. Et il réussit à quitter l'Espagne de cette façon.
Et alors, comment arrives-tu à établir le lien entre le texte « Hommage à la Catalogne » et l'image? Tu vas le construire comment?
Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est un livre, c'est un livre qui a été écrit de mémoire. C'est très important, puisqu'il n'avait plus, ses carnets avaient été confisqués par la police. Donc, c'est un livre qui est hanté par la mémoire des images. Il a des images très fortes qui lui restent, de liesse populaire notamment, les images des miliciens, les visages des miliciens. Ces images reviennent tout le temps dans le livre. Et ces images, c'est précisément des images qu'on retrouve dans les reportages des opérateurs de la CNT, enfin dans les actualités cinématographiques en général, bien sûr, mais très particulièrement dans les images des opérateurs de la CNT, puisque les anarchistes contrôlaient à ce moment-là l'industrie de cinématographique à Barcelone, et que l'industrie cinématographique, il n'y avait pas de télévision évidemment, était en charge des actualités cinématographiques qui était diffusée chaque semaine au cinéma en première partie de programme. Donc la rencontre entre les mots d'Orwell et ces images m'est apparue comme possible. Voilà. Et j'avais envie de voir ce qui se passait quand on les mettait ensemble, quoi. Enfin, de créer une rencontre entre ces deux formes de mémoire. C'est des images qu'on retrouve dans les archives. Alors, évidemment, ces images-là, il y a aussi une autre chose qui se produit, c'est avec ce travail de rapprochement, c'est que ces images, elles sont toujours au présent. Elles sont au présent, les images d'archives, parce que c'est une propriété des archives cinématographiques. Et parce que, pour plusieurs raisons sans doute, mais notamment parce que les protagonistes qui sont dans ces images, qu'on voit sur ces images, ne connaissent pas la suite. Ne connaissent pas la suite, donc sont dans une espèce sont dans le présent. Et un présent dans le cadre de la Révolution espagnole est très particulier, puisqu'il est tourné vers un futur, un autre futur, qui était selon la croyance des révolutionnaires espagnols. Donc, ces images sont au présent. Et le texte d'Orwell, lui, il est au passé. Hein. Il a écrit son livre juste après, aussitôt après son retour en Angleterre. En Angleterre. Mais dans les mois qui ont suivi, le livre a été publié en avril 1938, hein, donc moins d'un an avant son retour. Et le texte est au passé. Donc, voilà, l'idée, c'est de retrouver quelque chose du travail d'écriture d'Orwell, c'est-à-dire cette idée que l'écriture naît des images, hein, qui est un travail de remémoration fait par Orwell. Et l'idée, c'est de placer le spectateur dans cette position-là de remémoration. Alors, le spectateur, lui, évidemment, ce sont des événements qu'il n'a pas vécu, hein, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces images deviennent les siennes, en quelque sorte, c'est-à-dire fassent partie de sa propre mémoire. Non pas de sa mémoire individuelle, mais de ce qu'on appelle la mémoire des vaincus, une mémoire qu'il n'a pas vécue, mais dont il est l'héritier. Nous sommes les héritiers.
La mémoire des vaincus, je rappelle à nos auditrices, nos auditeurs, que c'est le titre d'un livre de Michel Ragon, qui est un très beau livre sur le mouvement ouvrier et le mouvement anarchiste particulièrement. Et, alors, le livre d'Orwell, c'est un témoignage, un engagement politique, les deux ?
Les deux. Hein, c'est les deux. À la fois un récit personnel c'est un point de vue politique. Mais Orwell, c'était pas un militant politique. Hein, c'était vraiment un écrivain, mais c'est un écrivain très particulier puisqu'il a toujours besoin de faire l'expérience de ce qu'il écrit. En le vivant, hein, on pourrait dire. Aussi bien dans la Dèche à Paris et à Londres, le Quai de Vigan, d'une certaine façon. Et surtout, hommage à la Catalogne, Orwell, c'était... il avait un accent d'Étonne, il venait de la bourgeoisie, plutôt. Et il avait été policier dans la police coloniale en Birmanie. Et il était, ses idées l'orientaient vers le socialisme, mais il lui manquait quelque chose, hein, il lui manquait une expérience. Cette expérience, c'est de vivre la même chose que ce que vivent ceux dont il parle.
Ouais. Et il a encore des illusions quand il revient d'Espagne par rapport au socialisme ou pas ?
Non seulement, enfin, il a des illusions, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il revient d'Espagne avec une conviction socialiste. D'accord. Qu'il n'avait pas au départ, hein, qui était au départ plutôt théorique, disons, quoi. Et là, il revient avec une foi encore plus grande dans les idées socialistes. Mais évidemment, avec une hostilité extrêmement vive, hein, à l'égard du stalinisme, des appareils de propagande en général.
Voilà. Oui, alors il dénonce évidemment dans ce livre le système stalinien, on retrouvera d'ailleurs des échos dans 1984, mais il s'exprime dans le silence assourdissant de la gauche. Personne ne va défendre son livre.
La gauche était...
De façon générale.
Les staliniens, à l'époque, étaient très influents dans la gauche. Et puis, il y avait aussi... tout le monde savait que la guerre était imminente. Et la guerre mondiale, je veux dire, et que la guerre d'Espagne était une répétition, pouvait être considérée comme une répétition générale du conflit à venir. Et d'ailleurs, Orwell en a une prescience incroyable, puisque la fin du livre se termine par le bruit des bombes sur Londres, du Blitz, donc qui interviendra 2 ans plus tard. Ouais. Et à ce moment-là, personne, enfin, à gauche, l'idée qu'il ne fallait pas critiquer l'Union soviétique, ne serait-ce que pour des raisons d'alliance contre les nazis, était une idée très forte, très forte. Et donc les staliniens contrôlaient, dans la pratique, contrôlaient beaucoup l'édition. Voilà, donc Orwell a eu des difficultés pour faire éditer son livre, et ensuite le livre a été passé sous silence pendant plusieurs années.
Comme on le retrouvera avec d'autres livres qui dénonçaient le stalinisme, l'affaire Kravchenko, etc.
Et voilà, voilà.
Très difficile de trouver un éditeur pour éditer ce livre qui disait la vérité, Kravchenko. Alors, dans ce livre, tu vas nous présenter, tu vas faire appel à Bruno Podalydès pour lire les textes.
Voilà, Bruno, j'avais déjà fait appel à lui pour mon dernier film, qui s'appelle Les fantômes du sanatorium, où j'évoquais le séjour d'un jeune écrivain, Roland Barthes, au sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, donc on s'est rencontrés, ça s'est bien passé, il a fait un très beau travail, voilà, et j'avais envie de lui proposer également cette interprétation d'Orwell pour ce projet qu'il a accepté bien volontiers.
Donc les images, on les a. Le lecteur, je vais dire, le narrateur, on l'a. Tu fais aussi, le scénario, tout est bouclé, il est écrit.
En gros, on reprend le scénario du livre d'Orwell. Évidemment, il y a des choses, on ne peut pas tout mettre. Il ne s'agit pas de bourrer un maximum.
Ça va durer combien de temps ?
Une heure. Voilà. Mmh. Il s'agit de... Moi, ce que je voudrais, c'est surtout que le livre, le texte d'Orwell nous emmène vers les images. Oui. Et c'est l'idée que Michel Foucault qui disait on a beau dire ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Donc il y a quelque chose, l'image déborde toujours et elle est plus forte d'une certaine façon. Et donc elle se laisse pas réduire à des mots, je veux dire. Mmh. Et donc je voudrais que ce travail de remémoration, vraiment le spectateur puisse le faire pour son propre compte. C'est-à-dire que je pense que le cinéma a... est un outil pour fabriquer de la présence. C'est ça qui est fondamental. Donc, quand je disais que ces archives étaient au présent, il s'agit de rendre ce présent présent, en quelque sorte. Alors, c'est évidemment... il s'agit de faire de l'expérience d'Orwell, l'expérience vécue par Orwell, une autre expérience, une expérience de cinéma. Une expérience où, évidemment, qui est une expérience qui mobilise l'imaginaire, mais qui n'en est pas moins réelle, et qui permet de toucher ou d'approcher, en tout cas, ce passé.
Tu parles aussi, dans la présentation du film, de Walter Benjamin. Pourquoi ? Quel est l'écho entre le film Walter Benjamin ?
Benjamin était très attaché à l'idée de... Il ne pensait pas que le passé était quelque chose qui était terminé. Voilà, il pensait que dans le passé, les choses pouvaient se réactiver, se réactiver beaucoup plus tard. Et elles n'étaient pas figées, quoi. Mm-hmm. Et donc le travail de remémoration est au cœur de la philosophie de Benjamin. Voilà. On est effectivement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme comme cinéaste documentariste, disons, les ateliers Varan, où j'ai fait ma formation, qui sont à mon avis, qui est à mon avis une très bonne formation, que je recommande vivement, sont évidemment très influencés par le travail de Jean Rouch, c'est ce qu'on a appelé le cinéma direct, hein, c'est-à-dire un cinéma plutôt du présent, où on filme la vie en train de se faire, disons. Hein. Donc, pas d'interview, pas de voix off, voilà, et plutôt la vie en train de se faire, pour simplifier. Et moi, je me suis aperçu, au fur et à mesure des films que je faisais, que ce qui me passionnait vraiment, c'était le passé. Hein, c'était le passé, et c'était la présence du passé. Mmh. Voilà, et j'ai envie d'utiliser le cinéma comme un moyen d'accéder à ce passé.
D'accord. Alors, bon, les images, on a tout là, on a quasiment tout. Il reste un point important, peut-être, la dimension financière. Comment financer ce documentaire? Je crois qu'on parle de financement participatif.
Alors oui, il y a deux choses. C'est un financement un peu mixte.
D'accord.
Et c'est un film que je suis en train de réaliser avec des moyens professionnels, dans des conditions professionnelles, mm-hmm. donc avec un producteur, c'est les films d'ici, et à une chaîne de télévision, parce que c'est comme ça en France, quand on veut faire un film documentaire.
Lequel ?
La chaîne Histoire. Et donc, quand on veut faire un documentaire en France, il faut passer par la télévision pour l'essentiel, hein, ou alors avoir suffisamment de moyens pour investir en dehors de la télévision, ou accéder à quelques rares aides destinées au cinéma, qui s'appliquent également au cinéma documentaire. Et... Mais c'est donc la chaîne Histoire, c'est une chaîne thématique, mmh. et le financement de la chaîne Histoire est insuffisant pour financer la totalité du projet. Surtout, c'est un projet voilà auquel on souhaiterait donner une certaine ampleur, et pour pouvoir faire le film, en tout cas le film qu'on a envie de faire, hein, mmh. avec le producteur Richard Coppens, on a pensé à ce financement participatif qui nous a été proposé par les amis de Maurice Rachfus. J'avais déjà fait un film sur Maurice Rachfus il y a oui. quelques années. Qui nous ont proposé, avec l'association Faisons Vivre la Commune, de lancer ce financement participatif en complément, qui vient en complément donc du financement de la chaîne Histoire et du Centre National du Cinéma.
Mais où peut-on trouver, alors, donc, d'accord, on a cette interview là, Iket Nunk, mais où peut-on trouver une présentation de ce projet?
Alors, sur le site de Faisons Vivre la Commune.
Oui.
Vous trouverez en page d'accueil, il y a une bannière tout en haut qui vous signale le financement participatif. Mmh. Et voilà, et puis en tout cas c'est l'association Faisons Vivre la Commune sur son site qui gère ce financement, qui accueille ce financement.
D'accord. Alors, je dis à nos auditrices et auditeurs qu'on a bien, on connaît bien l'association Faisons Vivre la Commune, et on a, au moment du 150e anniversaire, pas le bicentenaire, mais du 150e anniversaire, on a pas mal travaillé avec eux et on avait reçu les animateurs. Si tout va bien, le film, mais un
le
peu la pression,
montage,
sort quand
le montage, pas trop vite quand même, mais le montage va démarrer là, mm-hmm. et on espère sortir le film, on pense sortir le film début 2025.
Oui,
ça va aller assez vite.
Ah oui,
dans 6 mois, on pourrait dire que ça devrait être bon, quoi.
Donc, chers amis, eh bien, on vous invite à aller vraiment sur le site de l'association Faisons Vivre la Commune. Vous aurez toutes les informations. Même moi, j'ai compris. Donc, tout va bien. Et c'est fiable, c'est sérieux. On les connaît bien. Et si jamais vous avez des questions, des remarques, évidemment, vous déposez un message sur le blog de notre groupe, Commune de Paris, et nous transmettrons immédiatement à Frédéric et à l'association Faisons Vivre. Merci Frédéric, nous attendons donc la projection du film. Alors, il va être projeté sur la chaîne Histoire ou il va y avoir des projections?
Non, il y aura des projections. Non, l'idée c'est de le sortir un peu en salle aussi, et donc il y aura bien sûr des projections en salle. Hein. La chaîne Histoire, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de financer le film, enfin en tout cas la plus grosse partie du film. Et puisque en gros, si vous voulez, entre la chaîne Histoire, le CNC, on a réuni 60 000 euros et le film aurait besoin de 80 000. 80 000. Ouais, c'est ça. On aurait besoin de 15 000
euros. Voilà, c'est 15
000. On a 65 000. On a 65 000 euros.
Donc c'est possible.
Et on a besoin de 15 000 pour terminer, notamment pour faire le montage son. Mais l'idée, c'est bien sûr d'organiser des projections au cinéma, de le sortir en salle autant que possible, et à Paris, en province.
On pourra même le trouver à public projeté, à publico.
Bien sûr. On va s'y employer, en tout cas. Ouais. Quand le film sera terminé, bien sûr.
Bon, eh bien, tout le monde compte les uns sur les autres. C'est un beau signe de solidarité. Tu nous as proposé une musique qui devrait accompagner le film, je crois.
Oui, alors, donc, il y a ce qui est intéressant... Chaque production de film est une expérience singulière, mais dans ce cas-là, ce qui m'étonne, moi, c'est, enfin, ce que je remarque, c'est qu'il y a à la fois un financement institutionnel, de audiovisuel, etc., mais il y a aussi une contribution de bénévoles, militantes, de pas mal de monde, et un ami que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Jean Rochard, qui fait le label Nato, m'a proposé, est enthousiasmé par le projet, et m'a proposé de réunir quatre musiciens pour écrire et faire de la musique pour le film. Voilà. Et ces quatre musiciens, c'est Catherine Delaunay, clarinette, Tony Aymas au piano, Bruno Ducret, et Guillaume Séguron à la contrebasse. Ils ont enregistré les morceaux en question. Et donc, on va écouter un morceau de Catherine Delaunay, donc la clarinette, qui s'appelle « De l'autre côté » de Huesca, je crois. Et Huesca étant le front, enfin la ville du front où était Orwell.
Était Orwell. Très bien. Frédéric, nous écoutons.
Thank you.
nous sommes vraiment dans la lignée entre ce que vient de nous raconter, de nous rappeler Frédéric Goldbraun au sujet de, d'Orwell et les menaces qui viennent dans le ciel européen dans un premier temps et après dans le monde entier. Et je crois que les livres que nous avons commentés à plusieurs reprises, eh bien, ces livres doivent nous permettre de comprendre le danger et comprendre ce qui se passait. Et Frédéric l'a bien dit tout à l'heure, la guerre d'Espagne. Il y a eu la révolution en Espagne, mais il y a eu la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne était vraiment le prélude, j'allais dire presque la répétition de ce qui allait se passer sur le plan européen et sur le plan mondial. Dominique nous rejoint maintenant pour le troisième oui. temps de l'émission, les romans de la vie, et elle va nous rappeler un livre particulièrement fort, Histoire d'un Allemand, et je trouve qu'en ces temps aussi de montée de l'extrême droite dans l'Europe entière, il n'est pas inutile de relire ces pages, n'est-ce pas Dominique ?
Oui, tout à fait, d'autant plus qu'il y a eu les élections dans le Land de Brandebourg qui ont été perdues de vitesse par l'AFD.
Comme d'habitude, il y a un problème technique. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous présenter ce livre ? Histoire oui. d'un Allemand, donc de Sébastien Hafner, qui est alors sorti chez Actes Sud notamment. Alors d'abord, qui est Sébastien Hafner ?
Alors c'est un jeune juriste qui est né en 1907 dans une vieille famille bourgeoise protestante installée à Berlin. Il va s'exiler en 1938 en Angleterre pour échapper à l'atmosphère de son pays. Il n'est pas juif, hein, il est protestant. Là-bas, il va vivre dans des conditions précaires en Angleterre. Il va commencer la rédaction de ce livre et le laisse de côté. Il va écrire d'autres livres et de retour en Allemagne en 1954, il deviendra journaliste et historien reconnu avec des livres sur l'Allemagne prussienne et hitlérienne. Ce n'est qu'après sa mort en 1999 que ses enfants découvrent ce texte et le publient en 2000. Donc c'est un livre relativement récent.
Oui, c'est un livre récent, mais et moi je le connaissais pas particulièrement, mais qui est assez étonnant parce que on voit bien la montée, ce que je décrivais précédemment avant que tu nous rejoignes par téléphone. Quel est ce genre de récit ? C'est quoi ? C'est un documentaire ?
C'est très autobiographique. Hein. Il raconte ce que l'enfant, l'adolescent, puis le jeune adulte a vécu et a ressenti depuis 1914 hein, jusqu'en 1933. Le texte d'ailleurs s'arrête brutalement à cette date. Hein. Alors on croise pas, c'est pas les il n'y a pas les grands dignitaires du nazisme hein, ni les théoriciens. L'auteur s'en excuse. D'ailleurs, il n'a voulu témoigner qu'à son échelle individuelle, celle d'un citoyen absolument ordinaire qui se trouve, qui vit l'agonie d'une démocratie, puis la mise en place d'une dictature. Et il essaye de, en tant que simple citoyen, il essaye de comprendre le cours de l'histoire.
Alors, tu vas nous dire un extrait du prologue.
Du prologue, oui. Je vais vous conter l'histoire d'un duel. C'est un duel entre deux adversaires très inégaux, un État extrêmement puissant, fort, impitoyable, et un petit individu anonyme et inconnu. Ils ne s'affrontent pas sur le terrain qu'on considère communément comme le terrain politique. L'individu n'en est aucune façon un politicien, encore moins bien un conjuré, un ennemi de l'État. Il reste tout le temps sur la défensive. Il ne veut qu'une chose, préserver ce qu'il considère à tort ou à raison comme sa propre personnalité, sa vie privée, son honneur. Tout cela, l'État dans lequel il vit et auquel il a affaire, l'attaque sans arrêt, avec des moyens certes rudimentaires, mais parfaitement brutaux. L'État, c'est le Reich allemand, l'individu, c'est moi.
Alors le récit et le livre démarrent en 1914.
Oui, alors il démarre par l'exaltation puis l'humiliation collective de la guerre 14 perdue par l'Allemagne. Il décrit les soubresauts de l'après-guerre, la République de Weimar, l'assassinat de Walter Rathenau, les crises en 1923, en 1929, séparées par une relative prospérité sous la direction de Stresemann. Il montre comment aussi un parti minoritaire en 1932 arrive au pouvoir en 1933. Et il va montrer aussi, il mêle la grande histoire à sa vie personnelle. Certains de ses amis quittent l'Allemagne, juifs ou non. Et ils vont également, avec ses camarades, ils vont se frotter entre eux et s'opposer, puisque certains choisiront le nazisme et d'autres pas.
C'est ça qui est terrible, c'est que d'avoir été étudiant en droit, oui, et de se retrouver avec les uns qui vont lui faire comprendre que bah il n'est pas comme eux. Voilà, c'est
oui,
tout.
Oui, hein,
c'est
oui.
Voilà. Il analyse bien aussi le mécanisme d'effondrement moral.
Oui, parce que c'est bien un effondrement moral hein, dont il parle chez un peuple cultivé. Et l'auteur n'a pourtant alors dit qu'il n'a pas et que ce peuple n'a pas été préparé à cet effondrement moral. Alors pour lui, plusieurs causes. Bon, la lâcheté des dirigeants politiques de l'Allemagne, la passivité de la population. L'auteur n'est pas tendre avec la mentalité du peuple allemand, hein, trop ancré dans la vie individuelle et le respect de l'ordre. Ça commence avec des embrigadements de l'employé de bureau, il appelle ça le fascisme de cour d'immeuble. Hein. La raison qui s'éteint un peu chaque jour dans les propos du voisin, rien de spectaculaire. Hein, donc une société qui se pense normale mais qui renonce à ses libertés sans résistance et sans en apercevoir. Donc toute opposition disparaît, l'État totalitaire s'installe. Il y a une scène aussi où on voit le vieux père, qui est aussi un grand juriste, le père Daffner, qui doit répondre à des questionnaires détaillés concernant son passé, et puis qui finit par répondre dans la douleur. Hein. Aucune possibilité de repli sur sa vie privée, la vie professionnelle, la vie personnelle, les conflits, les relations amoureuses, tout est broyé, emporté par les nazis. Donc il dit, à un moment donné, il dit il n'était pas possible de lutter, il fallait partir ou se taire.
Alors ça se fait par palier
oui,
ou brutalement?
Oui, oui. Non, ça se fait plutôt par palier. Il y a d'abord la dissolution des partis de gauche et de droite, la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée, l'interdiction des journaux, les hauts fonctionnaires sont remplacés, tout ça dans la joie et l'insouciance. Hein. Et donc, beaucoup de personnes se disparaissent. Des personnes connues, le présentateur radiophonique qu'on aimait bien, des acteurs familiers, le présentateur d'un cabaret. Puis alors, on ne sait pas, ils sont arrêtés, on ne sait pas très bien pourquoi. Hein. Alors, lui dit que Hitler comprenait peut-être mieux que personne les attentes hein, des forces vives de la nation. Il promettait beaucoup de choses, notamment il promettait de se venger de l'humiliation de 1914. Mmh. Donc c'est peut-être ça qui... Donc bon. Il se pose des questions hein, au fur et à mesure du livre, mais sans apporter de réponse, bien sûr.
Et puis il y a ce rôle de la camaraderie qui est typique du nazisme.
Oui, alors Hitler a mis en place un discours exaltant ça existait avant Hitler, hein, c'était l'amour du Vaterland. Les Allemands adorent la nature, ils adorent marcher dans la nature. Hein. Et donc, lui, il a encore accentué, il montre à Hafner combien l'esprit de groupe qui implique la démission de l'individu est facile à obtenir. Hein. C'est l'embrigadement des jeunes était le pilier. Je vous lis un extrait. Pendant la journée, on n'avait jamais le temps de penser, jamais l'occasion d'être un moi. Pendant la journée, la camaraderie était un bonheur. Moi, en tout cas, je ne le nierai pas et j'affirme avec force que c'est précisément ce bonheur, précisément cette camaraderie qui peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation et qui le sont devenus entre les mains des nazis. La camaraderie est partie intégrante de la guerre. Comme l'alcool, elle soutient et réconforte les hommes soumis à des conditions de vie inhumaines. Elle est proprement un instrument de décivilisation. À force de camaraderie putassière, les nazis ont dévoyé les Allemands. Elle les a avilis plus que nulle autre chose. C'est assez terrible hein, ce qu'il raconte.
Eh bien, dis-donc, on peut penser à d'autres livres.
Oui, alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de littérature sur la montée du nazisme. Hein. J'avais déjà présenté Souvenir d'un Européen de Stefan Zweig.
Et oui.
Quand les Lumières s'éteignent d'Eric Hamann est aussi un très bon livre. Les écrits plus scientifiques, d'analyse plus scientifique d'Anna Arendt sur la banalité du mal. Victor Klemperer a montré comment le nazisme aussi a forgé une nouvelle langue. Bon, il y a eu plein d'historiens, de philosophes, de sociologues, de psy hein, qui ont analysé. Mais
ce qui est intéressant chez Hafner, c'est le côté citoyen du quotidien,
oui,
je dirais.
Oui, c'est hein, ça. C'est et ça. C'est très concret. Ce qu'il montre, c'est très concret. La montée du totalitarisme est rendue de façon concrète. Hein.
D'accord.
Et en plus, il l'a écrit pendant la montée du nazisme et non après, comme tous ceux que je viens de citer.
Alors, on recite, on donne le titre du livre, l'auteur, l'édition.
Donc, c'est l'histoire d'un Allemand, de Sébastien Hafner, chez Actes Sud.
Oui. Bon, et 1914-1933, comme tu dis, ça s'arrête en 1933. Et le prochain livre que tu vas commenter, alors, je crois, est en lien avec les élections américaines.
Oui, alors Paul Auster, Pays de sang, une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis. Donc il explique pourquoi les États-Unis sont un des plus violents pays, enfin de la violence quotidienne avec les armes, chez Actes Sud.
Très bien. Merci Dominique. Eh bien, à dans 15 jours.
Hein? Oui, allez, bonsoir.
Allez, bonsoir. Et moi, je voudrais vous faire entendre une voix venue de l'enfer. Elle a fasciné son peuple. Elle a fasciné ce pays qui est le berceau de Beethoven, de Hegel, qui vraiment est un peuple qui a construit, qui a une langue, qui est une langue riche. Et cet homme, bah, vous vous doutez ce que je vais vous passer, les gouvernements occidentaux n'ont pas voulu comprendre ce qu'il avait écrit, alors que tout était écrit, et l'horreur était annoncée par ce fou. Écoutez ce fou, ça peut revenir. N'oubliez pas ça. C'est avec cette voix que Hafner a subi, comme des millions d'autres personnes, en Allemagne, en Europe et dans le monde entier, un des pires crimes. Agnès, est-ce que tu peux nous présenter maintenant un autre livre au contenu étonnant dans cette rubrique Roman de la vie, Bravoure, je crois.
Tout à fait, Bravoure, écrit par Witty Imaera, traduit par Mireille Vignol, aux éditions Vendésil. Les éditions Vendésil est une maison d'édition implantée en Océanie qui s'attache à faire connaître les écrivains investis d'humanisme de cette vaste région du monde. Witty Imaera en est l'un d'eux. C'est un écrivain maori. Il signe là son sixième roman. Mais nous en reparlerons.
Alors, bravoure, quel est le sens de ce mot, sinon courage ?
Alors, nous y sommes. Bravoure est l'histoire de deux hommes d'une même famille, Michael et son oncle Sam, dont il découvre le journal de sa vie et de ses secrets de bien des années, cachés par la famille depuis très longtemps. Michael, jeune homme brillant d'une famille maori, décide de prendre sur lui d'annoncer son homosexualité lors d'une fête familiale pour satisfaire son compagnon. L'effet ne se fait pas attendre, il est renvoyé de la famille et son compagnon, qui plus est, le quitte. Pat, sa tante, se rapprochera de lui et lui confiera la lecture du journal de son oncle Sam, dont il ignorait tout de l'existence jusqu'à son nom. Pat et Sam étaient jumeaux. Ils étaient élevés dans une grande et riche ferme de Nouvelle-Zélande par Arapeta, leur père. Ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, autoritaire, inflexible, bref. C'est ainsi et pour ces raisons de tradition militaire que Sam, l'oncle de Michael, s'engagera dans la guerre du Vietnam. Du Vietnam, il racontera la jungle, des paysages humides et chauds, couverts d'éclairs de chaleur, des marécages et des pièges permanents. Des villages dévastés ou silencieux, la déchirure d'assister, sans s'y attendre à des massacres d'enfants et de vieillards. « Quel ennemi envoie des enfants déterrer des mines ?» écrit l'auteur. Les combats, les éclairs de grenades, les explosions, le vacarme des armes, la violence des bombes et du napalm. Comment la guerre ose-t-elle être belle, pensera Sam. Dans son équipe de combattants, des amis, des proches, Georges, Turé, et puis le premier ennemi que l'on tue. Comment dire à un garçon qui doit tuer un homme, écrit Witty I'i Maera. Les Maoris pensent que lorsqu'on tue quelqu'un pour la première fois, quelque chose en nous disparaît. Les traditions, la culture vietnamienne ressemblent pourtant de choses à l'appréhension que Sam se fait des choses, que le combat n'en est que plus difficile et la culpabilité est toujours présente. Beaucoup d'images font référence à la culture maori, tout aussi précieuses les unes que les autres. Le présage envoyé par la rencontre avec une chouette, une tarentule. L'image sacrée du Aitiki, c'est une petite sculpture en jade qui se réchauffe à votre contact en forme d'homme. Elle est censée protéger le maori. Ses formes et ses volutes reflètent le soleil qui éclaire les grands yeux et la langue tirée sur le visage. Le haka aussi, qui accompagne en toutes choses la vie, la mort, la peur, la joie. Quant à Cliff Harper, lui, il est américain. Il est pilote d'hélicoptère et ses rencontres avec Sam sont autant de moments d'amitié que de légèreté et de désir et de bravoure pour consoler des cauchemars induits par tant d'images de mort dans ce contraste de guerre et de violence. En effet, la guerre fabrique des situations inattendues et tous deux se découvrent particulièrement attachés l'un à l'autre, chose dont Sam se défendra longtemps, sachant que l'homosexualité n'était pas tolérable pour un Maori. Cela aurait transgressé l'ordre du monde, transgressé la nature tapue ou sacrée de l'homme. Enfin, au retour du conflit, c'est l'effervescence des retrouvailles, l'exaltation, la sensualité jusqu'à la punition, aussi terrifiante qu'un jour dans la jungle du Vietnam. Ce roman parle d'hommes, de virilité, d'amitié, du respect de l'autre, des bravoures, oui. Witty I'i Maera s'est toujours attaché à défendre dans ses romans l'émancipation de ses milieux, lutter contre le patriarcat, encourager l'écoute de toutes ses causes. L'homosexualité est comme aussi la cause des femmes, dans La baleine tatouée, chez le même éditeur. Je vous rappelle donc Bravoure, écrit par Witty I'i Maera, traduit par Mireille Vignol aux éditions Vent des Îles.
Merci Agnès. Alors sans transition, comme on disait dans le temps à la télé, avec Frédéric, nous abordons un livre de Romain Gary, Lady L, réédité chez Folio. Fred.
Oui, merci de me passer le micro. Bah, écoutez, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bah, alors cette semaine, comme a dit Francis, un roman de Romain Gary, Lady L. Alors, ce n'est pas le roman le plus connu de Romain Gary, mais la lecture m'a plu. D'abord, qui est Lady L? C'est Annette Boudin de son vrai nom. Son père est anarchiste et forme sa fille à l'anarchisme. Les chemins de la fille et du père se séparent. Puis, toujours animée par le désir de justice sociale et d'anarchie, Annette entretient ses idées. Un peu plus tard, quand elle aura grandi, elle rencontrera et tombera amoureuse d'Armand Denis. Lady L est un personnage de roman, alors que Armand Denis, lui, a réellement existé. Vous trouverez un article biographique sur Wikipédia ou éventuellement le mettront. Armand fut un communiste libertaire, fils de communard, animateur de divers journaux anarchistes, dont l'Anarchie. Mais dans le roman, Romain Gary romance le personnage d'Armand. Sous la plume de Romain Gary, Armand Denis devient un propagandiste par le fait et Annette, une de ses complices. Romain Gary, on le voit, c'est très documenté, un beau documentation sur cette époque, en cherchant des sources, en mêlant le fictionnel et le fait historique. Romain nous parle du monde de l'anarchisme, de la fin du 19e siècle, il y cite Kropotkin et Bakounine. D'ailleurs, moi aussi, il m'a fallu me reporter à quelques lectures et consultations de sites, car dans le roman, cette part de réel n'est pas renseignée. Il le met, mais elle n'est pas renseignée. Sans parler du roman, de roman d'action, il n'est pas dénué de coups d'éclat, de rebondissements, d'incertitudes. Et l'on voyage de la France à la Suisse, puis en Grande-Bretagne, où Annette est devenue une vraie lady, qui vit dans une somptueuse demeure de lady, avec une nombreuse descendance comptant parmi les notables du Royaume-Uni. Un destin peu commun, en passant d'une enfance dans un milieu franc, pauvre, pour devenir une lady. Il y a du mystère dans ce livre. Ce mystère se dévoile peu à peu, au fil des pages, rendant les personnages attachants. Des personnages hors du commun, comme ce jockey au cou tordu Il y a des drames, des morts, il y a aussi de l'amour. L'amour que porte Annette à Armand. Au point où Annette trahira Armand pour le protéger de lui-même. Du moins, le pense-t-elle. Lady L n'est pas un roman à quatre sous ni un roman de gare, mais je dirais un grand roman, malheureusement peu connu, de par sa construction, son fil conducteur, et par sa trame et son suspense. Je cite la quatrième de couve. Elle saisit la sacoche avec les bijoux et la jeta à ses pieds. Elle lui fit un petit signe de la main, referma doucement la porte et tourna trois fois la clé dans la serrure. Cette phrase m'a carrément accroché et j'ai lu ce grand roman pour savoir pourquoi cette porte fut fermée à trois tours de clé. Vous voudriez le savoir, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est le cas, je ne peux que vous recommander de lire ce grand roman. Je vous donne les références, Lady L, de Romain Gary, chez Folio. Je repasse le micro à Francis.
Merci. Voilà, chers amis, quelques livres que nous souhaitions vous présenter en ce mois de septembre. C'est fini pour Au fil des pages. Dans le mercredi 9 octobre 2024, nous recevrons Anne Steiner pour son livre Le temps des révoltes, publié aux éditions L'Échappée. D'ici là, bonne lecture. Et nous avons choisi un nouveau générique de fin d'émission, Nothing But the Blues de John Verity. Et nous allons laisser la place après, à nos amis de Femmes Libres, à bientôt et au plaisir de partager.
Ça sent bon la dernière étape, ça sent fort la ligne d'arrivée. Pendant qu'on coupe le saucisson, Jeff qui a failli tout faire valser, réclame un air d'accordéon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Comptoir, sortent les voilides. Garçon, à ballon s'il vous plaît. Patron, ma gourde est vide. Y'a de l'instit
et du plombier
autour d'un jus de bananier, farci de vieux bonbons anglais.
Yes.
Dès que le rouge vit au violet,
il rentre le Beaujolais nouveau est arrivé.
des gueules de bois. Au nom du repos du guerrier, Jeff grave et la main sur le foie, rêve d'un lendemain férié. Demain, vu que ça se verra, on se dira vous en étiez
autour d'un verre de soda.
Le Beaujolais nouveau est arrivé.
Se libère.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes Libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons
Femmes Libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 32e émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste, pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Elle existe depuis 1981 et notre émission existe depuis 1986, tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, Sylvie qui est à la régie. Et pour nous suivre, on peut aller sur notre blog émission-femmeslibres.blogspot.com. Ainsi, on peut réécouter les émissions, avoir le programme. Mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Ce soir, au programme, féminicide par compagnon ou ex. L'opus poétique proposé par Sandrine Malika. La 22e édition du festival Femmes en résistance contre les frontières qui va se tenir le 28 et le 29 septembre à Argueil. Et puis on termine avec des informations, des communiqués, des rendez-vous. On démarre avec les féminicides par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
domestique. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Sur la page de Féminicide par Compagnon ou Ex sont recensés dans les médias les féminicides commis en France dans un contexte conjugal. 77 féminicides ont été repérés depuis le 1er janvier 2024. Le 77e féminicide a été révélé 2 mois plus tard que, qu'au moment où il a été fait. Puisque c'était le mardi 30 juillet dans le quartier de Brosselette à Mayenne, dans la Mayenne. Adjer Zemali, 37 ans, a été tué par son compagnon dans leur appartement. En toute discrétion, les enquêteurs ont apposé des scellés le 31 juillet, indiquant qu'une enquête criminelle était ouverte, mais aucune.